Bolo, bolo, samba à tous, mesdames et messieurs, vous êtes sur Radio Gabon à l'écoute de CNSS à la une, votre émission essentiellement consacrée aux questions de sécurité sociale au Gabon. On rappelle 30 minutes d'émission dont 5 consacrées à la question de l'auditeur. Appelez, comme vous le savez, au 07 73 25 00 pour participer. Pour ce 10e numéro, nous allons parler des risques professionnels avec ces deux volets qui sont les accidents du travail et les maladies professionnelles. Avec nous dans ce studio, deux experts de la sécurité sociale. Il s'agit de Madame Nadège Ayuma Doutakeme, directeur adjoint des prestations techniques à la CNSS. À côté d'elle, nous avons le docteur Roy Jacques, médecin du travail, médecin chef du service de médecine du travail à la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà, le décor est planté. Tout de suite, nous allons commencer notre émission avec vous, Madame Ayuma. Vous allez d'abord tenter de nous présenter, hein, comment définit-on la branche des risques professionnels au sein de votre institution, parce que on dit qu'il y a beaucoup de branches au sein de la direction générale.
Merci Monsieur Koumba. Effectivement, il y a plusieurs branches au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, principalement les trois branches des prestations familiales, des risques professionnels et des pensions. Je m'appresenterai au cours de cette émission particulièrement sur la branche des risques professionnels. Cette branche constitue la deuxième branche de notre système de protection sociale, créée conformément au décret numéro 57/245 du 24 février 1957 et dont la gestion est régie par la loi 675 du 25 novembre 1975 portant code de sécurité sociale. Et son décret d'application numéro 599/PR du 17 juin 1981. Dans cette branche, on distingue deux types de risques. Il s'agit des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce sont ces deux éléments-là qui sont gérés au sein de cette branche de risques professionnels qui vont être par la suite définis.
Alors, je vais rapidement me tourner vers le docteur Roy pour essayer de nous définir ce qu'on entend par maladie professionnelle. C'est quoi une maladie professionnelle? Alors, ou risque professionnel, si vous voulez.
Alors, risque professionnel répond à deux éléments importants, comme l'a dit Madame Nadège Otakeme. Ce sont les accidents de travail et les maladies professionnelles. Pour parler de la définition de l'accident de travail, il faut tout simplement dire qu'elle répond d'abord à l'article 55 du Code de sécurité sociale et on considère comme accident de travail tout accident, quelles qu'en soient les causes, qui survient au travailleur par le fait ou à l'occasion du travail. Mais nous avons également une extension par rapport à cette définition, c'est la notion d'accident de trajet. L'accident de trajet, c'est un accident qui survient au travailleur pendant le trajet d'aller ou de retour entre sa résidence et le lieu où il effectue son activité, pourvu qu'il ne se soit pas déplacé ou il ne s'est pas arrêté à un endroit pour une autre raison ou alors une raison autre qu'une raison professionnelle. Il faut noter également que l'on considère comme accident de travail tout travailleur qui est envoyé, par exemple, en mission, qui est donc en voyage, et ce voyage est payé par l'employeur.
Vous avez parlé justement des trajets, définir effectivement que le travailleur était sur le trajet approprié, parce qu'on peut toujours tricher à ce niveau-là.
Alors, moi, ce que je dirais, c'est que on va l'aborder dans cette émission. L'accident de travail doit être déclaré par l'employeur. En principe, l'accident de trajet, on s'en rend compte lors de la déclaration, donc lors des différents éléments qui sont fournis par l'employeur. Maintenant, il revient à la CNSS, lorsqu'il reçoit cette déclaration d'accident de travail, de faire l'enquête. Et dans le cadre de cette enquête, on pourra effectivement préciser s'il s'agit réellement d'un accident de trajet ou pas.
Alors, comment peut-on déterminer clairement un accident du travail? Quelles sont les caractéristiques? Est-ce qu'on peut savoir que ça, c'est un accident de travail? Par exemple, quelqu'un qui a une hernie, une hypertension, comment déterminer ça?
Alors, effectivement, de manière pratique, nous avons énormément de difficultés par rapport à, par exemple, cet exemple que vous donnez tout de suite, la notion de hernie inguinale. Nous avons de nombreux cas qui sont déclarés en tant qu'accident de travail. Mais ce que nous disons, c'est que en tant que médecin du travail, nous pensons que la hernie est plutôt due à un problème, on va dire, de naissance, un problème au niveau des muscles abdominaux préexistants. Effectivement, le facteur déclenchant de ces hernies peut être ou ne pas être l'activité professionnelle, surtout la manutention manuelle. Donc effectivement, nous avons de nombreux cas de déclaration d'accident de travail qui, en fait, se révèlent comme étant des hernies inguinales. Nous avons eu également dans notre pratique les problèmes d'hypertension artérielle. Nous savons très bien que l'étiologie de l'hypertension artérielle est connue. Et le fait que nous passions 80% de notre temps dans notre activité professionnelle, la complication de l'hypertension artérielle peut se déclencher éventuellement dans l'environnement professionnel ou ailleurs. Donc, pour nous, médecins du travail, l'hypertension artérielle et l'hernie ne rentrent pas dans le cadre de l'accident de travail au sens propre du terme.
Mais docteur, vous avez parlé de tension, il y en a qui soulèvent des objets lourds. Est-ce que ça ne peut pas les entraîner les hernies, ça?
Ce que nous savons, c'est que le fait de faire de la manutention manuelle, c'est vraiment le terme consacré à la manutention manuelle, peut éventuellement entraîner des problèmes de troubles musculosquelettiques. Donc, le trouble musculosquelettique, c'est un gros mot, c'est les douleurs lombaires qui sont gênantes à un certain moment. Ça peut éventuellement entraîner, on va dire, avoir des conséquences, mais à long terme de hernie, mais disons que la hernie peut arriver à n'importe quel moment également, parce qu'il y a une faiblesse des parois abdominales qui est préexistante. Donc, vous avez des travailleurs qui, pendant des années vont soulever des objets lourds et ne vont jamais faire de hernie. Et vous en avez d'autres qui ont une faiblesse au niveau musculaire. Dès qu'ils vont soulever des objets lourds, vont avoir des hernies. Alors, donc, c'est difficile de rentrer ça dans le cadre de l'accident de travail. Alors, et de toutes les façons, ce que je voudrais dire, c'est que quand même, la hernie, c'est une maladie. Ce n'est pas un accident. Donc, si ça devait rentrer dans le domaine de définition, ce serait peut-être une maladie professionnelle. Mais là encore, il faudrait faire des études d'évaluation, voir s'il faut mettre ça dans la liste des maladies professionnelles.
D'accord, la liste des maladies, on va en parler tout à l'heure. Mais au niveau, par exemple, de l'hypertension, c'est aussi que le bruit, hein, l'environnement de travail peut aussi entraîner l'hypertension. Enfin, je suis pas docteur. Hein.
Oui, il n'y a pas que ces facteurs-là. Vous le savez bien. Vous savez que le stress entraîne l'hypertension artérielle. Vous avez des causes d'hypertension artérielle que l'on appelle idiopathiques. Donc, sans cause, vous avez des problèmes organiques, des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques qui peuvent entraîner une hypertension artérielle. Donc, vous comprenez que quand on a plusieurs causes possibles, c'est difficile d'imputer la cause essentiellement à l'activité professionnelle.
Alors, docteur, peut-être nous préciser quelles sont les conséquences d'un accident du travail en général?
Alors, trois conséquences possibles. Soit l'accident, à la fin, est guéri, l'accidenté est guéri, donc il présente des lésions. Ces lésions sont prises en charge par le médecin. Il sera guéri. Soit, à la fin de l'accident, il présentera des séquelles. Et on appellera ça, en médecine légale, médecine du travail, consolidation avec séquelles. Donc, il bénéficiera d'une rente. On en parlera un petit peu. Ou alors, vraiment, il y a des accidents qui entraînent automatiquement la mort. Donc, ce sont les trois conséquences possibles d'un accident de travail.
Alors, Madame Ayuma, on va parler de réparation, justement, et on vient de parler de conséquences. Est-ce qu'on peut savoir si tout accident donne forcément à une réparation?
Tout accident ne donne pas forcément lieu à une réparation. Avant qu'il y ait réparation, il faut d'abord que l'accident soit déclaré préalablement. Mmh. Préalablement, dans un délai de 48
tout
heures,
tout accident
doit être déclaré par l'employeur sous 48 heures, conformément au code de sécurité sociale. Ce qui arrive, c'est qu'il arrive souvent que certains employeurs ne déclarent pas les accidents, d'où la non prise en charge médicale et administrative de cet accident. Mais il faut dire ici que la procédure de déclaration administrative d'un accident consiste à remplir le formulaire jaune, appelé déclaration d'accident du travail, sur lequel l'employeur est tenu de renseigner toutes les informations nécessaires qui sont portées sur ce formulaire-là, et notamment les circonstances détaillées de l'accident, et déposer à un guichet de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dès lors où cette procédure n'est pas respectée, aucun accident ne peut être pris en charge. Donc, l'élément primordial, prioritaire, c'est d'abord la déclaration à un guichet de la CNSS sous 48 heures, d'un accident du travail.
Alors, qu'est-ce qui fait que certains employeurs ne déclarent pas?
Bon, généralement, il faut dire que d'autres, parfois, c'est par manque de connaissances. Hein. Bon, c'est vrai qu'on dit que nul n'est
censé... Mais ils sont quand même assujettis à la CNSS, non?
Ils sont assujettis à la CNSS, mais comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. En tant qu'employeur, lorsque vous avez des assurés à gérer, il y a quand même des règles quand même importantes, notamment au niveau des directions des ressources humaines. Des responsables des ressources humaines sont tenus de gérer tout ce qui est activité liée aux salariés, notamment les accidents, étant donné que les mêmes responsables gèrent le dossier travailleur en ce qui concerne la branche des prestations familiales. Il est de même nécessaire qu'il y ait un regard vis-à-vis de la branche des risques professionnels, parce que tout accident non déclaré ne peut en aucun cas donner lieu à une réparation. Mais il faut dire que lorsqu'un accident est déclaré dans les règles de l'art, alors la CNSS se porte garant de prendre en charge l'accident, et cet accident est pris en charge à 100% pour les assurés victimes de ces risques-là.
Alors, quelles sont justement les prestations fournies par la CNSS par rapport justement à cet accidenté?
Bon, les différentes prestations qui sont gérées au sein de la CNSS liées à cette branche, nous avons d'abord la prise en charge des soins médicaux. Il faut dire que les soins, c'est la prise en charge médicale. Dès lors où la victime est accidentée, ils seront d'un établissement sanitaire le plus proche. Il est pris en charge tout de suite, non seulement d'abord par le médecin se trouvant sur le lieu pour la première fois, qui constate effectivement l'accident, mais par la suite, nous avons, après le traitement, tout peut se faire de façon concomitante, ces soins médicaux qui sont pris à la charge au niveau des hôpitaux publics, notamment, mais à condition que l'accident ait été déclaré. Parce que tout accident non déclaré, les frais doivent être pris en charge par l'employeur. En plus de ces soins médicaux qui sont à la charge de la CNSS, nous avons, suite à la délivrance des certificats médicaux délivrés par le médecin du travail, déclinés par ailleurs tout à l'heure par Dr Roy, nous avons tout certificat qui est délivré, qui va donner lieu, par exemple, le certificat de guérison qui va donner lieu au calcul de l'indemnité journalière d'accident du travail, qui va être reversé à l'employeur. Et il faut dire que, généralement, l'indemnité journalière est reversée à l'employeur et non à l'assuré. Parce que pendant l'incapacité temporaire de travail de la victime, l'employeur est tenu de verser son salaire à l'assuré. Il n'est pas question que son salaire soit suspendu. Nous avons par ailleurs la rente d'incapacité qui est délivrée à une victime d'accident de travail ayant une consolidation des lésions, c'est-à-dire qui a fait l'objet d'une expertise médicale à travers laquelle une incapacité permanente partielle a été attribuée à ce patient-là.
Alors, comment vous évaluez ça à votre niveau? Vous avez parlé d'expertise médicale pour attribuer à un accidenté selon la gravité 20%, 30%, 40%.
Il faut dire que cette évaluation du barème d'incapacité, c'est du domaine du médecin conseil. Et donc, les médecins du travail qui reçoivent le malade l'orientent par la suite vers le médecin conseil pour une expertise médicale qui va définir à travers des barèmes l'incapacité de l'assuré. Et c'est cette incapacité-là qui est prise en charge dans le cadre de la liquidation de sa rente.
Alors, docteur Roy, vous avez une réaction?
Alors, je voudrais compléter, parce que de manière pratique, tous les accidentés pensent qu'ils doivent bénéficier d'une rente d'incapacité. Il faut préciser que la rente d'incapacité, c'est seulement si, suite à l'accident, le travailleur présente des séquelles que l'on appelle des séquelles fonctionnelles.
Ça veut dire qu'il est incapable de continuer à travailler, par exemple?
Si, il est capable de travailler, mais il lui manque, par exemple, un membre.
D'accord.
Il lui manque un doigt. Ou alors, il n'est plus apte à avoir une activité professionnelle à 100%. Et donc, c'est ces séquelles fonctionnelles qui sont évaluées par l'expert. L'expert, c'est le médecin conseil de la CNSS, qui donne un pourcentage, et ce pourcentage donne droit à un calcul d'une rente d'incapacité. Donc c'était important de le préciser, parce que les travailleurs, très souvent, quand ils sont à la fin de leur traitement, ils se disent qu'ils vont toucher de l'argent, qu'on va leur donner de l'argent. Et j'essaie toujours de leur dire que durant votre accident, vous avez été en arrêt maladie pendant 15 jours, votre employeur vous a bien payé l'indemnité journalière, et donc là vous êtes guéri, il n'y a pas de séquelles, donc ça ne donne pas droit à un argent qu'on doit vous donner. Donc c'était important que je le précise.
Oui, absolument. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un problème d'information, de sensibilisation, Madame Ayuma?
Oui, nous essayons, Monsieur Koumba, de faire notre maximum. Communiquer. Vous avez vu, depuis un temps, nous lançons des colloques, des séminaires, tout sur toutes nos activités pour essayer d'éclairer nos usagers. Tout à l'heure, je n'avais pas fini de décliner les prestations.
Oui, allez-y, vous avez la latitude. Voilà.
Après la rente d'incapacité, nous avons aussi les rentes de survivants ou indemnités de décès qui sont accordées aux ayants droit des victimes d'accidents du travail décédés sur le lieu du travail. Nous avons aussi des frais funéraires qui sont normalement remboursés par la CNSS lorsqu'il y a eu dépenses pendant le décès de l'assuré. Donc, ce sont ces prestations-là qui sont accordées aux ayants droit ou à l'assuré lui-même victime d'un accident du travail.
Docteur Roy, médecin conseil, médecin traitant, médecin du travail, quel est le rôle de chacun dans tout ça?
Alors, le médecin traitant, c'est le premier médecin qui prend en charge de manière curative. C'est-à-dire curative, ça veut dire pour traiter le patient.
S'il est le premier de la chaîne.
Il est le premier de la chaîne et c'est lui qui voit le patient, c'est lui qui évalue les lésions suite à l'accident de travail. En fonction de l'évaluation des lésions, il traite le travailleur. Et il délivre, ce médecin traitant, différents certificats médicaux. Certificat médical initial, que l'on appelle également certificat de première constatation, c'est-à-dire c'est lui qui décrit toutes les lésions, parce que vous allez le comprendre, vers la fin, quand on va évaluer les séquelles, il faut que les séquelles constatées correspondent aux lésions initiales.
Absolument.
Donc, et c'est le médecin traitant qui fait ce premier travail, et donc qui donne les arrêts médicaux. Ensuite, nous avons dans la deuxième partie de la chaîne le médecin du travail de la CNSS qui a un rôle de contrôleur. C'est-à-dire que les travailleurs se présentent au service de médecine du travail avec les certificats médicaux de leur médecin traitant. Et les médecins du travail regardent si les certificats médicaux qui sont délivrés par les médecins traitants correspondent à la réalité physique constatée chez le travailleur. Très souvent, nous avons des surprises. Très souvent, il y a certaines informations ne sont pas complètes ou alors certaines informations ne sont pas tout à fait justes et nous sommes obligés de remettre les choses en ordre. De même, les arrêts médicaux, vous pouvez avoir un médecin traitant qui donne un arrêt médical de 15 jours, mais vous savez qu'il y a une indemnité journalière payée par la CNSS qui vient par la suite. Donc nous avons également pour rôle de vérifier que ces 15 jours qui seront payés par la CNSS correspondent à la réalité. Donc, c'est la deuxième chaîne, c'est le médecin du travail. Et le troisième palier, c'est au cas où, effectivement, le médecin traitant a déterminé d'éventuelles séquelles, nous vérifions que les séquelles qu'il propose sont réelles.
Qui propose là en ce moment, c'est
le médecin traitant. Non, c'est le médecin traitant. L'employeur n'a rien à voir dedans, ni l'employé. C'est le médecin traitant qui, suite à ses soins, constate effectivement que le patient présente des séquelles. Et il propose justement que cette personne soit bénéficie d'une rente. Et nous, notre devoir, c'est de vérifier l'exactitude des faits et de le confirmer par les documents que nous allons délivrer. Et nous l'orientons par la suite chez le médecin conseil. Et c'est le médecin conseil qui détermine, sur la base d'un barème, des barèmes qui sont des barèmes connus et des barèmes internationaux, le pourcentage que la CNSS devra ensuite transformer en source financière.
Madame Ayuma, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voudrais ajouter quelque chose, surtout à l'endroit de nos usagers. Pour ce qui concerne l'accident du travail, il est question que la victime d'accident du travail informe immédiatement son employeur. Mais il arrive que l'accident se produit, ses assurés ne disent rien à leur employeur. C'est par la suite, quelques temps après, les délais sont déjà écoulés, qu'ils le font savoir. D'autre part...
Mais vous pensez que l'employeur peut accepter cela quand il sait que...
Ben oui, mais généralement, les délais sont déjà écoulés. Et le deuxième point, c'est surtout le suivi du traitement et l'observance du repos médical prescrit par le médecin conseil. Tout à l'heure, docteur Roy précisait qu'il y a parfois une prescription du nombre de jours d'arrêt d'incapacité. Mais généralement, ces arrêts ne sont pas respectés par les accidentés du travail. Donc, ce qui fait que ces jours d'incapacité pendant lesquels la victime est censée se reposer, certains employeurs font travailler leurs assurés, leurs collaborateurs pendant ces périodes-là. Et ces périodes travaillées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une indemnisation. D'autre part, pendant cette l'activité est suspendue et ils doivent faire un suivi et se soumettre à des contrôles médicaux. sans cela, rien ne peut se faire. Donc, nous sommes obligés, hein, de temps en temps, d'insister auprès de nos usagers pour qu'ils se rendent directement vers les médecins conseils. D'autre part, je voudrais indiquer aussi une petite préoccupation. Généralement, lorsqu'ils sont accidentés, ils se limitent uniquement à la visite chez le médecin traitant, mais ils oublient que tous les actes prescrits par les médecins traitants doivent être validés, contre-expertisés par les médecins du travail.
Le médecin traitant ne peut pas tout faire. Hein?
Le médecin traitant ne peut pas tout faire parce qu'il faudrait que la CNSS ait un regard sur les victimes d'accidents du travail. Ce sont nos assurés et nous devons avoir un regard sur le suivi médical de ces assurés.
Absolument. Docteur Roy.
Alors, je voudrais rajouter, parce qu'il faut que je profite de cette antenne, pour parler des cas d'accidentés du travail qui ne sont pas déclarés, non pas parce que le travailleur n'a pas informé l'employeur, mais parce que l'employeur, sous le prétexte qu'ils prennent souvent maintenant des assurances complémentaires pour leurs travailleurs, donc font valoir cette assurance complémentaire et donc se disent que ce n'est pas nécessaire de déclarer l'accident. Sauf que très souvent, quand l'accident donne lieu à des séquelles, ils sont bien coincés. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu ce cas-là et ça se retrouve souvent chez les employeurs qui utilisent la main-d'œuvre, une main-d'œuvre non permanente, les journaliers. Et ça, c'est un problème qui effectivement qui a été posé. Utilisant des journaliers, ils ont tendance à ne pas déclarer ces travailleurs à la CNSS. Ils utilisent donc l'assurance complémentaire, sauf que l'assurance complémentaire ne couvre pas les paiements de l'indemnité journalière. Et du coup, ça pose énormément de problèmes.
Nous allons vers la fin de la première partie de cette émission. Peut-être rapidement donner le contenu de la fiche de déclaration des risques professionnels. Hein.
Dans la fiche de déclaration d'accident de travail, nous avons déjà, il faut présenter les caractéristiques. C'est une fiche jaune qui comporte 4 volets. Donc, le premier volet destiné généralement à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons le deuxième volet qui est destiné à l'inspection du travail, du ressort. Le troisième volet à la formation sanitaire ayant donné des soins à la victime, et le quatrième à l'employeur. Donc ces 4 volets-là doivent être établis, doivent être remplis et transmis à chaque destinataire.
Le lieu de dépôt?
Le lieu de dépôt au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, ce sont nos guichets. Quels que soient les guichets à l'intérieur du pays ou au siège, hein, nous avons nos agents de guichet qui sont là pour réceptionner. Mais je voudrais tout simplement insister que toutes les informations portées sur cette déclaration sont obligatoires et doivent être renseignées. Nous avons le volet concernant l'employeur, les informations sur l'employeur, les informations sur la victime, notamment son numéro matricule, les informations liées à l'accident, une partie qui est quand même assez importante, qui comporte les horaires de travail, l'heure à laquelle a eu lieu l'accident, le lieu de l'accident et les circonstances détaillées. Donc toutes ces informations sont capitales parce que ce sont ces informations-là qui sont nécessaires et qui vont permettre à la CNSS de mener des enquêtes, notamment les témoins. Et s'il y a eu un rapport de gendarmerie et de police aussi, toutes ces informations doivent être indiquées sur cette fiche-là.
La question de l'auditeur.
La question de l'auditeur.
Madame, messieurs, comme prévu, nous voici à présent dans la rubrique La question de l'auditeur, avec cette première préoccupation de monsieur Ibinga, hein, qui nous appelle de l'Ambariné. Il voudrait savoir s'il pourrait avoir droit à une indemnisation pour un accident de travail qui n'a pas été déclaré par son employeur. Qu'est-ce qu'il doit faire, Madame Ayuma?
Bon, pour ce genre de cas, il faut dire que généralement, c'est des personnes qui réagissent longtemps après que l'accident ait eu lieu. Généralement, même les délais réglementaires prescrits par le Code de sécurité sociale sont déjà dépassés, largement dépassés. Dès lors où l'accident n'est pas déclaré sous les 48 heures, conformément aux dispositions de l'article 57 du Code de sécurité sociale, le législateur a prévu au niveau du décret d'application un délai de carence. De carence de 2 mois, hein, pour donner la possibilité à l'assuré ou à ses parents, à sa famille, à ses proches, de déclarer l'accident. Mais il faut dire que cette carence aussi doit être justifiée. Il n'est pas question un bon matin que quelqu'un dise non, mon employeur n'a pas déclaré. Il faudrait que ça soit justifié. Pourquoi l'employeur n'a pas déclaré? On comprend parfois qu'à travers le territoire, il y a des employeurs qui sont très très loin et parfois les moyens de communication, les voies ne sont pas accessibles.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup des instances à votre niveau?
Bon, les instances que nous avons à notre niveau ne concernent pas ces cas de figure.
D'accord.
Concernent plutôt. Je tiens à insister là-dessus, les certificats médicaux qui ne sont pas déposés par les employeurs. Nous avons plusieurs dossiers en attente, en instance de traitement, qui souffrent justement du manque de pièces complémentaires pour traitement.
Alors, il y a une autre question de Monsieur Ndonjac qui dit, je cite, « J'ai eu un accident depuis 3 ans, mais le dossier n'a pas encore été traité, je crois que c'est toujours ces problèmes.
Oui, je pense qu'il s'agit de ce cas de figure, parce qu'il faut dire que la victime n'a pas toute la procédure, ne maîtrise pas toute la procédure de liquidation des droits. Donc c'est à l'employeur de suivre, de faire un suivi, de collecter toutes les pièces complémentaires, les certificats de première constatation initiale ou de guérison, et transmettre à la CNSS en vue d'une liquidation. Si cela n'est pas fait, la CNSS n'est pas censée savoir que la victime d'accident de travail est guérie ou a été consolidée.
Mais est-ce que la victime elle-même ne peut pas se prendre en charge? Parce qu'il y a des employeurs véreux quand même.
Bien sûr que si l'employeur, la victime elle-même aussi peut faire la démarche une fois, puisque étant donné que c'est elle qui se rend auprès des médecins du travail, c'est à elle aussi de prendre en charge les éléments qui lui sont fournis par les médecins de travail et les déposer à la caisse pour que le dossier soit traité dans les plus brefs délais.
Voilà, madame, nous allons poursuivre donc avec cette autre question de monsieur Pascal Aubian. Il dit qu'il a une structure dans le secteur du bois. Il veut savoir s'il doit forcément venir à Libreville pour déposer sa déclaration parce que il est loin et il précise dans le Guayvino.
Pour ce cas de figure, il faut dire que la CNSS est un organisme qui comporte des délégations et des agences disséminées à travers le territoire. C'est vrai, pour cette personne qui est dans le Guayvino, la délégation compétente est celle de la DOE, que nous appelons délégation de le Guayvino et du Wolentem, qui se trouve à Oyem. Donc, l'accident du travail peut être déclaré directement au niveau d'Oyem, et cette déclaration doit être acheminée sur Libreville en vue de traitement. Mais il faut dire que nous sommes dans le cadre de la certification ISO, nous sommes en train de mettre en place, essayer de connecter, d'interconnecter toutes les délégations. Et je pense que tous ces problèmes de traitement ne se poseront plus dans les prochains mois.
Voilà, madame, monsieur, CNC, cela une s'achève. Nous n'avons pas tout dit, mais nous réservons quand même une deuxième partie à ce thème, qui est quand même assez riche. La semaine prochaine, si vous avez un dernier mot à dire, justement, sur les risques professionnels, madame Ayuma.
Oui, monsieur Koumba, j'ai quand même quelque chose à dire. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais j'insiste beaucoup sur l'absence de dépôt des pièces. Il faut dire que aujourd'hui nous sommes certifiés ISO. Nous avons des délais réglementaires, des délais qui sont définis de traitement des dossiers dans les délais de 45 jours. Mais sans documents, nous ne pouvons en aucun cas traiter un dossier. Je lance un appel surtout aux employeurs ou aux assurés que tout accident déposé doit faire l'objet d'un dépôt systématique des pièces auprès de la CNSS pour éviter que nous ayons des tonnes et des tonnes de dossiers en instance de traitement.
Voilà, madame, monsieur, pour les questions non abordées dans ce studio, vous connaissez le principe, les réponses vous seront données hors antenne par la Caisse nationale de sécurité sociale. On dit merci à nos invités, donc à la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce thème sur les risques professionnels à travers votre émission CNC Salahud.
Caisse nationale de sécurité sociale, notre ambition, mieux vous servir.